Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme les deuxièmes mardis de chaque mois. Dans l'émission générique « Les chemins de traverse », c'est « Et si on en parlait ?». Alors, si on en parlait, vous savez qu'on parle de tout, hein, mais on essaye de parler de choses qui sont importantes. Et ce soir, donc, j'ai un invité. J'ai un invité, c'est Benjamin Jaïr, de l'ex-EFR, mais on va expliquer tout ça. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Voilà, alors Benjamin, je vais te tutoyer, hein, parce que Benjamin et cette association sont sœurs et on s'accompagne depuis des années. Et ben, c'est une association IEFR qui est en plein bouleversement, mais des bouleversements qui ne sont pas des bouleversements dramatiques, qui sont des bouleversements qui, ben, ma foi, qui étaient imaginés, on va dire, qui étaient même programmé, peut-être pas dans ces délais, mais voilà, pour à un moment, ben, passer la main sur un certain nombre de choses et puis là, les laisser faire par d'autres. Et ces actions que menait cette association étaient tournées vers le Sénégal, le soutien à un village, à des actions, voilà. Et ben maintenant, apparemment, les gens sont devenus autonomes et on va parler de tout ça et on parlera aussi de ce que va être demain, de l'activité des militants de cette association, parce que comme je les connais, je pense bien qu'ils ne vont pas se mettre devant leur téléviseur qu'ils n'ont peut-être pas. Voilà. Alors Benjamin, on va faire un petit peu un retour en arrière. Hein. 20 ans donc.
20 ans, oui.
Voilà, 20 ans de la création d'IEFR. Eh bien, raconte-nous un peu.
Oui, ben, ça part de rencontres. L'association IEFR s'appelle « Il était une fois une rencontre ». Donc c'est effectivement un premier voyage le 11 octobre 1998, donc date anniversaire on peut dire.
Quasiment. Ouais.
Quasiment. Qui fait que du coup je reste d'abord seul pendant 6 mois en Afrique de l'Ouest, sac à dos, donc Dakar, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Mali, Guinée, avec plein d'aventures, plein de rencontres magnifiques. Et à mon premier retour en France en février-mars 1999, je raconte tout ça autour de moi et j'attire effectivement pas mal d'amis et pas mal de curiosités autour de ces projets. Donc je repars en tout cas au mois d'octobre 1999 et là je me retrouve à penser vraiment associatif, penser action et penser surtout besoins et demandes. Puisque c'est de là que va naître l'association IEFR, de rencontre avec la population d'un village complètement enclavé en Casamance. Donc la Casamance, une trentaine d'années de guerre civile, une rébellion, un mouvement indépendantiste mené par tout d'abord les cadres, les enseignants, les femmes qui font des manifestations seins nus dans les rues de la capitale régionale Ziguinchor dans les années 80 et qui se font tirer dessus par l'armée sénégalaise. Donc c'est tout un passif, toute une histoire et c'est un lieu quasiment inaccessible et relativement dangereux. Et c'est un peu aussi pour ça que j'y vais. Et du coup, je rencontre ces personnes donc, qui sont du coup enclavées. Alors enclavées, ça veut dire pas de réseau routier pour accéder au village, pas d'eau potable, pas d'électricité, encore moins de téléphone à l'époque. Et donc du coup, des demandes qui correspondent à des besoins et non pas des envies et des utopies de certains qui veulent un véhicule ou le téléphone. Non, des vraies demandes de groupements de villages, de groupements de femmes, de groupements d'hommes, d'écoles, de dispensaires. Et c'est sur ces demandes et ces besoins qu'on va travailler justement pendant 20 ans, puisque dans le principe même de l'association, c'est une demande, un besoin, un projet d'étude, et ensuite on accepte ou pas, mais en tout cas si on accepte, on se met en branle ici en France. Et effectivement, les actions, les randonnées pédestres nocturnes, les soirées humanitaires, les concerts, etc., comme on a connu ces 20 années autour de Villefranche et des environs, ben, sont finalement les moyens, les leviers pour mettre en place des actions là-bas qui correspondent à des besoins et à des demandes de la population, donc du coup qui fonctionnent.
D'accord. Alors, quand on est comme ça, tout seul, dans la région du Beaujolais, et qu'on décide de prendre son sac à dos et de partir dans ces régions qui ne sont pas des régions simples, hein, et dangereuses, tu l'as dit, ça vient d'où ?
Ça vient, c'est presque héréditaire. Hein. C'est un grand-père qui avait monté le don du sang dans la vallée d'Azergues, et l'aide familiale. Hein, c'était ces associations, les mutuelles, ce genre de choses. Donc du coup, tu participes à ça pendant les repas de famille. Tu comprends que tiens, le grand-père, il fait en plus du boulot son jardin et en plus il va à des réunions. Tu t'intéresses un petit peu à tout ça. Et puis c'est des rencontres magnifiques avec le centre aéré de Pommiers, ce genre d'endroit où t'es gosse et tu te rends compte que tu peux aussi participer, tu deviens aide-animateur, animateur, et puis tu travailles avec les jeunes malvoyants de Saint-Clément-sur-Valsonne, donc paf, petit à petit tu te retrouves finalement à être utile. Et quand t'es utile très tôt, ben t'es gourmand d'utilité et en fait... Tu te rends compte qu'ici, les études qu'on te propose, ce que le conseiller d'orientation t'a donné à faire, parce que t'es un garçon, donc tu vas à la cité scolaire Louis-Armand pour faire de la mécanique productive, ouais, parce que t'es pas une flèche à l'école, et puis que toutes tes copines et tous tes potes qui avaient un peu plus de moyenne, ils sont à Claude B, les salles sont propres et ils font L ou ES, ben écoute, toi tu te dis qu'à un moment donné, il faut peut-être faire autre chose, donc le voyage c'est une solution.
Et pourquoi l'Afrique ?
Vraiment, ça se joue en une soirée. J'ai un CDI dans un magasin à La Part-Dieu, donc je prends le métro tous les matins, je vais à l'école la journée pour essayer de rattraper un niveau scolaire parce qu'entre temps j'ai dû faire l'armée parce que j'avais pas fait mes papiers, et en une soirée un copain de classe de mon frère, un copain d'école sénégalais de Dakar me parle de son pays. Je réfléchis, je dors là-dessus, le lendemain je l'appelle, je lui dis écoute là, si je vais là-bas tu peux me donner une adresse, quelque chose, et en deux mois j'ai un billet, une adresse et je suis parti, quoi.
Voilà. D'accord, alors la rencontre là-bas
exceptionnel, une coccinelle de 1969 avec un gros papa africain qui vient me récupérer dans l'aéroport de Dakar. Et puis là, du coup, c'est parti. Élevage de poulets dans les quartiers HLM. Et HLM là-bas, c'est pas HLM d'ici. Soutien scolaire avec les personnes atteintes de polio. Paf, petit à petit, voilà, il se passe des choses humaines. Et tu te dis qu'en plus, voilà, le peu que t'as, c'est-à-dire pas un rond, mais juste ton énergie, ça fonctionne. Alors pourquoi ici, ça marcherait pas?
Et alors après ça, avec le retour, donc avec cette rencontre, donc puisqu'il était une fois une rencontre, et puis cette envie de continuer, comment ça s'organise la création de cette association ? Alors bon, tu en parles autour de toi, etc. Des gens qui se sentent intéressés, mais après il faut structurer, parce qu'après il y a eu des projets importants.
Bien sûr, ouais. Et c'est pour ça justement que c'est le cadre associatif en France qui, à l'époque, je dis bien à l'époque, s'y prêtait le mieux. Un peu cette envie d'avoir une couverture, d'avoir une sorte de petit cocon dans lequel se mettre, hein, créer des statuts d'association, regrouper les gens sous forme d'adhésion, ce genre de choses, bah, c'est un peu un fonctionnement que je connaissais. Et je me dis, ben voilà, c'est la solution, je vais créer une association. Ça a un petit peu de poids, ça permet aussi de passer dans la presse locale, parce que c'est l'association Intel qui organise tel ou tel événement. Ça permet d'aller dans les écoles. Parce que nous, notre association, on l'a créée vraiment avec un objectif de sensibilisation.
D'éducation.
Et voilà, vraiment éducation à la citoyenneté. Mmh. C'est ce que je fais aujourd'hui encore au Collège Faubert, dans les écoles du Beaujolais et à la fac à Lyon 2. C'est vraiment ça, c'est la citoyenneté et la solidarité internationale. Ça se regroupe, mais à la base, c'est quoi ? C'est la citoyenneté, quoi. Comment j'aide mon voisin en mettant des mots un petit peu là-dessus, pour pas aider n'importe comment et savoir un petit peu comment faire. Et pour le faire surtout, voilà. Et donc du coup c'est l'associatif qui correspond le mieux, et donc on crée une association assez rapidement avec des statuts lambda, des statuts de base qui nous permettent en tout cas d'évoluer avec les copains, de nous rassembler, et ça veut dire pouvoir obtenir une salle des fêtes via la municipalité, donc paf, lancer un petit concert, une petite collecte, voilà, ce genre de choses,
récolter des fonds, ouais, etc. Alors, dans tous ces ateliers, on va dire, ou ces petites conférences dans le milieu scolaire, on entend dire que les jeunes actuellement, ils pensent qu'à leur smartphone et à comment essayer de sortir du chômage. Est-ce que l'engagement est encore présent ?
L'engagement, il est formidable. Et effectivement, les jeunes se servent de leur smartphone. Parce qu'ils ont tous des anecdotes à me raconter sans avoir bougé leur cul de Villefranche ou de la salle de classe. Ils sont super curieux, en fait. Et ça, on a réussi avec... Moi, c'est le seul point positif que je trouve à la technologie. On a réussi à assouvir une certaine forme de curiosité et de rechercher ces éléments, rechercher ces informations par soi-même. Et donc, tu n'as pas un jeune dans n'importe quel endroit où je passe qui me dit « Ah, mais moi, j'ai vu ça, je suis allé chercher ça, j'ai trouvé ça. » Voilà, il y a des gars qui font ça. Voilà.
Alors, de l'engagement, enfin de la curiosité, après à l'engagement, est-ce que ça suit ?
Eh bien, ça, c'est le plus délicat, en fait. Hein. Tu soulèves effectivement la question qui est vraiment celle de l'engagement. Hein. Ça veut dire que ben, j'ai pensé à quelque chose, je suis d'accord avec quelque chose, je vais faire quelque chose. Et là, c'est effectivement très difficile. La solidarité face à la télé, on n'est pas encore à un contre un. Là, hein. Il y a du mal de fait. Hein. D'accord.
Oui, mais malgré tout.
Alors malgré tout, on se retrouve quand même, à chaque fois qu'on organise quelque chose, peut-être de la façon dont on le présente, sans être trop
donneur de leçons,
sans vouloir se dire une énorme organisation avec toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, où chacun peut amener en fait quelque chose. C'est ce qu'on a vu lors de notre dernière randonnée nocturne, hein, on avait plein d'intervenants, moi qui arrivais un peu au dernier moment, il y en a un, il a amené un instrument de musique, il a tenu toute la soirée, il y en a un autre, il a fait des bracelets en bois, quoi, voilà. Bon, chacun en fait, faut faire comprendre aux gens, ou en tout cas, il faut être d'accord déjà avec ça, que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et pour moi, c'est vraiment l'illustration du colibri de Pierre Rabhi, quoi. C'est vraiment cette histoire. On va pas la raconter une millième fois, mais en tout cas, c'est ça, c'est la goutte d'eau, quoi.
Voilà. Colibri, il y en a deux au Bois-d'Oin. Tiens, ils viennent d'ouvrir un à Thésée qui vient d'ouvrir une deuxième boutique à Bois-d'Oin. Je vous conseille d'y aller dans les épiceries des Colibris. Alors, il y a eu plein d'actions qui ont été menées, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Quelles sont les actions les plus importantes et on ne va pas dire les plus, celles dont tu es le plus fier, mais qui pour toi ont été les plus efficaces, si ce mot n'est pas, on peut l'utiliser dans ce contexte.
Bah, c'est la maternité, le travail avec la maternité et tout ce qui a tourné en fait finalement autour des femmes et de leur minimum de bien-être. Et ça a vraiment été, j'étais encore avec une des sœurs du dispensaire hier sur WhatsApp, et ça c'est ce qui a vraiment été le plus fort en fait dans les voyages, dans les séjours, dans la relation, puisqu'à chaque projet, peu importe le projet, que ça soit la coopérative de pêche, le travail avec l'école, le foyer des jeunes, la mangrove, il y avait toujours une place pour les femmes et la maternité, puisque c'est les femmes qui nous ont toujours accueillis dans le village. Et finalement, sur les plus de 250 séjours qu'il y a eu vers le village de Cabadio, eh bien, je crois que chacun a pu amener un petit quelque chose, passer un moment à la maternité, et ça, c'était vraiment, vraiment super.
On parlait tout à l'heure de projets, etc., de besoins par rapport aux envies, de demandes et de besoins par rapport aux envies et aux utopies. Que penses-tu, par exemple, des coopérations qui se mettent en place entre des villes comme Villefranche ou Glaizé avec des villages du Bénin et de l'efficacité, enfin de la réalité, de la réponse à des besoins?
Bah, moi, j'ai envie de leur demander de faire en sorte d'être à l'écoute vraiment de la population et de passer du temps là-bas. Voilà. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est que des échanges de mails, des petits séjours de 15 jours ne suffisent pas à étudier la demande et le besoin sur place. Et effectivement, quand une institution locale, un groupement d'adultes va faire une demande de construction d'une route, d'envoi de camions poubelles, etc., eh bien, peut-être que la population jeune, qui représente quand même 65% de la population en Afrique, hein, des moins de 15 ans, hein, 65%, eh bien, peut-être que ça, elle n'en a rien à faire et que ça ne va pas l'empêcher de partir. Ça ne va pas l'empêcher, du coup, de fuir, d'aller ailleurs. Et on n'atteint plus l'objectif premier de l'humanitaire en général, c'est de fixer les populations là où elles sont pour vivre. Et ça, c'est très dommage pour moi. Il y a beaucoup, beaucoup de gâchis à ce niveau-là.
Alors, dans l'exemple de la mangrove, par exemple, il y a eu beaucoup de travail qui ont été faits là-bas avec les clubs de foot, etc. Les gamins qui allaient planter, c'était leur arbre qui plantait dans cet endroit qu'il fallait protéger. Comment ils se l'approprient? Et puis, comment, parce que bon, pour eux, c'était pas évident, il faut connaître, comment ils réalisent l'importance de ces actions?
Eh bien, en le faisant eux-mêmes. Et il y a un truc incroyable qui est en train de se jouer. Il y a une multinationale chinoise qui est en train de vouloir dégager du sable d'une dune sur 5 km de long. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, Villefranche-Arnas à la pelleteuse pour sortir une dune carrément. Donc, ça aura des impacts considérables sur l'environnement, sur l'eau des pluies, des puits. Et bien là, depuis le mois d'août, il y a 4000 arbres qui ont été replantés par les jeunes, justement, clubs de foot, etc., avec des projets de soutien, tout ça. Et les gamins, quand les pelleteuses vont arriver, et bien finalement, ils vont se rendre compte que ces pelleteuses vont détruire l'arbre qu'ils ont planté. Et donc, du coup, l'impact, il est considérable. En fait, non, tu ne touches pas à mon arbre, c'est moi qui l'ai planté. J'ai fait l'effort, je suis allé en pleine pluie pendant la saison des pluies, j'ai marché des kilomètres pour aller planter un arbre. Donc c'est ça, c'est le faire avec et surtout le fait qu'ils le fassent eux qui va faire la différence. Il faut arrêter l'humanitaire où on part avec 50 personnes pour aller planter des arbres
non.
pour des gens qui finalement en ont besoin de ces arbres mais qui du coup vont rien avoir à faire.
Non,
donc
non,
ça voilà, c'est un peu le...
Est-ce qu'on parlait un petit peu justement de ceux qui, parce qu'on leur fait une belle route et cette route, ils n'en ont rien à faire, ils se disent « bon, ben, je vais aller voir ailleurs comment ça se passe ». Comment ça se passe au niveau de la migration au Sénégal ?
Alors le Sénégal, c'est un des pays les plus français d'Afrique, d'accord ? C'est un des pays qui a aussi les plus de possibilités de partir parce qu'il y a un énorme port, il y a un énorme aéroport, il y a des routes qui montent jusqu'au Maroc, il y a des routes qui partent un petit peu de partout. C'est le pays le plus développé d'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de mariages aussi, franco-sénégalais depuis des années. Et donc du coup, il y a toute une forme de tourisme qui est basée uniquement sur le mariage visa. Hein. Donc c'est des jeunes garçons souvent, ou des jeunes femmes, mais plutôt des jeunes garçons qu'on appelle les Rasta Toubab. Toubab, ça veut dire le blanc. Rasta Toubab, c'est vraiment le jeune un peu cool avec trois dreads qui va draguer la dame qui vient faire son séjour de 15 jours au Sénégal et qui finalement rapatrie un jeune Sénégalais de 40 ans de moins, que lui, quoi, moins qu'elle. Donc ça, c'est une des solutions. Et c'est surtout des possibilités en camion, des possibilités en pirogue, en bateau, qui sont offertes, mais qui sont énormes. Et maintenant, avec le couloir de la Libye, il y a énormément de Sénégalais. Là, j'y étais en juillet, j'ai fait des interviews comme ça de jeunes qui rentraient de 2 ans de Libye. Et c'est une des premières fois que je vois des jeunes de mon âge se mettre à pleurer quand ils racontent quelque chose, à part quand ils parlent de leur maman, quoi.
Ouais. Voilà.
Donc, ils ont vécu des trucs super durs. Et du coup, là, on se rend compte que vraiment, le pourquoi du comment, c'est que pour moi, il y a deux raisons. Il y a la diaspora qui vit en Europe ou en Amérique, qui rentre régulièrement dans son pays et qui rentre chargée de cadeaux, tout simplement, hein, et qui en met plein la vue sur Facebook,
ouais,
sur
c'est
Instagram.
L'attrait de la richesse,
voilà, c'est l'attrait d'une fausse richesse, puisque moi, bizarrement, tous les Sénégalais que je connais en France, ils ont un niveau de vie qui est pas supérieur au moins, et malheureusement, loin de là. Hein, vous savez que j'ai bossé pendant 20 ans dans le social et l'insertion. Ben, j'ai eu beaucoup de gens immigrés d'Afrique qui venaient parce que, justement, s'intégrer en France, ne serait-ce que d'avoir un boulot, c'est très difficile. Et donc, du coup, de là correspondent tes propres ressources. Donc, ces gens-là, quand ils retournent au pays, ils font du mal, mais énormément de mal. Ils s'en rendent pas compte. Et moi, j'en veux à personne. Mais c'est une des premières raisons qui font que tous les petits frères, ils n'ont qu'une envie, c'est de les rejoindre parce qu'ils savent que là-bas, eh ben, on mange super bien, on vit super bien et on est super bien sapé. Parce que tu n'as que ça en tête quand tu n'as pas autre chose à penser.
Bien sûr.
Et la deuxième raison, c'est un petit peu un groupe de raisons, c'est les inconvénients climatiques qui jouent, hein, les inondations de plus en plus, hein, la montée des eaux là-bas. Nous, on en parle à la télé, mais là-bas, ils la prennent de pleine face.
Figure,
hein, d'accord, parce que le sol en Afrique est souvent à la hauteur de l'océan. Donc, dès qu'il y a des montées des eaux, c'est une catastrophe.
Ça court.
Le réchauffement climatique, c'est exactement la même chose. Hein. Ils ont des saisons des pluies, là, depuis 1995, qui ont pratiquement baissé de 1 à 2 mois. Sur 5 mois de saison des pluies, qu'est-ce qui reste ? D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on ne mange plus forcément à sa faim partout. Ça veut dire qu'en plus, on doit déménager régulièrement parce qu'on a les pieds dans l'eau 3 mois dans l'année, donc c'est une catastrophe. Donc, tout ça, c'est lié. Et ça, tout cet effet non maîtrisable par l'humain fait qu'il y a quand même plein de jeunes qui partent pour chercher autre chose, des familles qui partent, des familles entières, qui se retrouvent dans les grandes villes comme Dakar, par exemple, ou Bamako. Dakar, c'est plus de 5 à 6 millions d'habitants
énorme.
Le Sénégal qui fait 12 millions d'habitants. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est pour moi deux causes vraiment, vraiment importantes.
Et alors, ils partent, voilà.
Il y a tout un business qui est monté.
Pour ceux qui arrivent, ils arrivent. Pour ceux qui étaient récupérés par les bateaux, qui n'ont plus le droit de sauver les gens en Méditerranée, ils se retrouvent au fond de la mer.
C'est ça, au fond de la mer. Là, un des jeunes, là, il s'appelle Tombon, il nous racontait donc comment ils sont partis à 17 sur un matelas pneumatique. En mer Méditerranée, d'accord. Moi, je me suis baigné en mer Méditerranée. J'ai même fait de la plongée à 11 km des côtes. Donc, tu as déjà du fond, là. Hein. Mais ça fait flipper. C'est tout noir. Et la nuit, là-dedans, c'est une catastrophe. Et tu peux pas emmener à manger. Et tu crois que c'est en face. Mais c'est pas en face. Il faut ramer et pagayer un bon moment, quoi. Et donc, du coup, il faut absolument qu'aucun n'emmène. Il n'y a pas de clé, pas d'argent, pas de trombone, rien du tout pour pas crever le matelas pneumatique. Ils s'auto-fouillent les uns les autres. Et le copain, il est arrivé. Il nous a appelé quand il est arrivé. Il a été arrêté quand il est arrivé. Il part en une semaine en Italie pour le rapatriement. Donc, il a fait tout ça. Il est resté 2 ans en Libye, esclave des Libyens, d'accord. Et c'est là qu'il s'est mis à pleurer quand il devait nous raconter un peu ce qu'il a vécu. Et du coup, il est resté une semaine en Italie, dans un camp de réfugiés. Il a eu un passeport d'urgence. Il est reparti en avion. Donc, c'est la première fois de sa vie qu'il a pris l'avion. Il est arrivé à Banjul, en Gambie. Il s'est fait casser la gueule.
Voilà. Voilà. Donc, d'où l'utilité de mener les actions qui font comprendre à tous ces jeunes que, ben voilà, en se prenant en main, en apprenant, en partageant, voilà, on peut rester, et il faut rester dans son pays.
Et c'est valable des deux côtés. Tout ce qu'on raconte ici, peut faire ici et tout ce qu'on fait là-bas, ça a ce sens, ça a ce double sens. Ouais.
Allez, on va écouter Ismaël Lo, Africa. Voilà, on a fait un petit peu le tour avec Benjamin sur pourquoi on va en Afrique, pourquoi on crée une association IUFR mener des actions qui correspondent à des besoins, des demandes, créer des projets pour le Sénégal. Et puis voilà, cette association, elle passe la main.
Oui, c'est ça.
Alors, raconte-nous.
Eh bien, dans le projet associatif écrit par l'association il y a plus de 5 ans, on parlait déjà d'autonomie, d'autosuffisance, etc. Et on a monté un gros projet, le foyer socioculturel Nemassu. Et ce projet, du coup, a rassemblé les jeunes. Alors, il y a des points positifs, des points négatifs. Hein, ça ne se passe pas si facilement que ça.
Tout n'est pas si simple.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure des derniers voyages, des rencontres, etc., on s'est mis à parler beaucoup d'autonomie et d'autosuffisance alimentaire. Voilà. Et pour nous, l'autonomie associative, c'était de dire, ben voilà, on vous a formé à la gestion, on vous a formé au projet, montage de projet, on a fait énormément de choses à ce niveau-là. Maintenant, vous allez pouvoir avancer par vous-même, et on s'est un petit peu donné une date. Et l'autosuffisance alimentaire, eh bien, c'est ce qu'on a commencé à intégrer petit à petit. Au départ avec les femmes et le maraîchage, mais petit à petit, on est très vite arrivé à la permaculture pour que justement, par le garden perma, donc tout ce qui est jardin de case, les familles puissent sortir en tout cas de la monoculture qui a été imposée par la France-Afrique pour que nous, on ait suffisamment ici de riz, d'oranges, etc. Voilà. Mais qui a complètement empêché ces populations de manger
d'être
à leur
autonome.
Faim et d'être autonomes, obligés d'acheter leur riz alors qu'il est meilleur là-bas, obligés d'acheter leur poisson alors qu'ils ont l'océan à 10 km, etc. Voilà. Donc on est parti dans cette dynamique et on a décidé donc en février 2018, donc cette année, d'arrêter l'association. Et le 2 juillet 2018, un groupement de jeunes en proie à l'exode, de retour d'Égypte, du Maroc, etc., a créé le groupement d'intérêt économique, GIE, c'est la forme structure administrative de l'entreprise là-bas, du nom de Bindoula en mandingue, ça veut dire la place de la rencontre, sur un lieu qu'on a acheté à plein de personnes, sur des terrains qui sont mis en commun, et pour faire de la permaculture. Voilà. Donc c'est un projet maintenant qui s'appelle Perma Cabadio. Et c'est le deuxième projet de formation là-bas et d'échange avec des forums villageois que l'on met en place là en décembre 2018.
D'accord. Alors bon, bien entendu, l'action des gens qui ont créé IEFR, des militants, on va dire, ne va pas s'arrêter là. Elle va d'une façon, mais peut-être depuis ici, essayer d'accompagner et d'aider et de soutenir ce GIE.
Tout à fait.
Alors ça se passe comment? Comment on peut faire?
Ça se passe en fonction de ce que chacun a envie de faire. Là, on a un groupe de personnes qui s'est focalisé sur la formation. Un autre groupe qui travaille énormément sur le côté bricolage, pratique, accueil des gens, donc avec la formation et la mise en place de chambres et d'accueil. Donc former des gens à l'accueil, c'est pas rien. On a créé une cuisine aussi. On va beaucoup travailler avec le dispensaire du village et l'école. Donc on a déjà fait de la formation au premier secours, de la bobologie. On va amener une ambulance. Voilà, donc on travaille autour de cette autonomie-là sur différents aspects, en fait. Parce que la permaculture, c'est le respect de la terre, le respect de l'homme et le partage. Et
dans le partage, en fait, vous devenez plutôt des prestataires.
On peut dire ça comme ça.
Voilà,
et on s'est donné 3 ans, en tout cas.
Qui accompagne un projet. Alors, si jamais, parce qu'on va être obligé de se quitter sous peu, si jamais on veut, depuis son Beaujolais ou depuis un autre endroit, soutenir, participer, s'informer et peut-être même s'investir, puisque je sais qu'il y a des rencontres qui sont prévues, qu'en décembre, je crois qu'il y a quelque chose. Oui. Donc, on fait comment?
Alors, on peut m'envoyer un mail sur l'adresse bindoula@permacabadio.com. On peut aller voir la page Facebook Permacabadio. Et on peut surtout s'engager à participer, à donner un peu de son temps et de ses moyens sur une campagne, une collecte que l'on a mise en route sur Hello Asso. Et là, vous trouverez le projet En route pour Cabadio 2018.
Alors, bien entendu, IEFR a un site internet où toutes ces informations sont à disposition. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, Bindoula, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, B-I-N-D-O-N-L-A.
D-O-U-L-A.
D-O-U-L-A, pardon. Voilà. Voilà. Benjamin, merci bien. On va se quitter en espérant que, voilà, ça va donner l'envie à des gens de la région, à nos auditeurs, de s'informer et de voir peut-être différemment ce qu'est le problème des réfugiés, de la migration, et peut-être aussi et surtout même ce qu'est l'aide entre guillemets ou la participation que l'on peut avoir avec ces pays en les voyant différemment, c'est-à-dire j'arrive pas avec mes tracteurs, etc., pour faire quelque chose, mais écoutez les gars, vous avez besoin de quoi, on discute et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble.
C'est ça, merci.
Benjamin, merci. Voilà, c'était Si on en parlait dans les chemins de traverse. On se retrouve, ma foi, le mois prochain pour une nouvelle émission. Vous savez que cette émission, vous pouvez la réécouter sur www.radio-calade.fr. À la technique ce soir, Mathieu, que je remercie. À bientôt.